France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Sainte-Sophie, pour nous, c'était la ligne rouge à ne pas franchir.
La laïcité n'existe qu'en France. Moi, je suis pour l'islam, je veux vivre sous l'ordre islamique.
Nous sommes de nouveau en situation de domination et nous sommes libres. Et notre président a voulu envoyer ce message au monde entier.
Cette ouverture au culte musulman ne date pas d'hier.
C'est du vol, c'est l'appropriation et la reconversion d'une œuvre et d'un lieu qui ne leur appartient pas.
Certains la considèrent comme la huitième merveille du monde. Joyau de l'Empire byzantin, Sainte-Sophie, construite au VIe siècle, fut une basilique pendant plus de 900 ans, avant d'être transformée en mosquée lors de la conquête de Constantinople par le sultan Mehmed II en 1453. Mais en 1934, alors que le pays prend un virage laïque, le premier président de la République de Turquie, Atatürk, en fait un musée pour, dit-il, l'offrir à l'humanité. 86 ans plus tard, nouvelle transformation, et voilà Sainte-Sophie redevenue mosquée. Le 10 juillet, dans la foulée d'une décision de justice révoquant son statut de musée, le président Erdogan a décidé de rendre l'édifice au culte musulman. Sainte-Sophie au cœur de manœuvres politico-religieuses destinées à renforcer le pouvoir en place, fragilisé par la crise économique et sanitaire. Sainte-Sophie, instrument de l'islamo-nationalisme, c'est un reportage signé Benjamin Ely. Invité de ce grand reportage, l'historien Etem Eldem, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire à l'université de Boğaziçi à Istanbul, titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France. Vous êtes avec nous depuis Istanbul en Turquie pour nous apporter votre éclairage d'historien qui sera très complémentaire du reportage de Benjamin Ely. Bonjour Benjamin.
Bonjour Aurélie.
Je précise que vous étiez en Turquie début août et que le tournage n'a pas été simple. Vous souhaitiez faire entendre tous les points de vue, mais vous avez essuyé des refus, notamment de partisans du pouvoir. Quoi qu'il en soit, vous nous emmenez tout de suite à Istanbul.
Il est un peu plus de midi, soleil au zénith qui écrase littéralement Sainte-Sophie et tous ses fidèles rassemblés. C'est vendredi, la grande prière. Le secteur a été entièrement bouclé, la tension est montée d'un cran ces dernières heures. Il y a des contrôles très serrés pour entrer, des fouilles, des policiers partout autour de nous, certains lourdement armés. Les fidèles rentrent au compte-gouttes. Beaucoup de tension, oui. Il se murmure que le président Erdogan viendrait aujourd'hui à Sainte-Sophie. Les barrières ont été déployées tout autour du monument. Pour les fidèles qui habituellement peuvent se positionner vraiment à quelques mètres de la porte d'entrée quand Sainte-Sophie a déjà fait le plein pour faire leur prière, là sont repoussés de plusieurs dizaines de mètres sur l'esplanade. Et on entend la voix du muezzin qui s'élève des minarets, cette voix qui rythme les journées à Istanbul. Alors là, il y a un homme assis sur son tapis de prière devant Sainte-Sophie. Il porte fièrement le fez, c'est ce chapeau traditionnel ottoman, ce petit chapeau rouge.
La laïcité n'existe qu'en France. Moi, je suis pour l'islam, je veux vivre sous l'ordre islamique.
Que Sainte-Sophie soit une mosquée, est-ce que ce n'est pas trahir d'une certaine manière, l'héritage d'Atatürk qui a fait de ce pays un pays laïque, qui avait fait de Sainte-Sophie un musée.
Si nos ancêtres n'avaient pas pris possession de cet endroit, il serait déjà détruit. Nous avons donné de la valeur à ce lieu. Atatürk n'est pas quelqu'un qui correspond à notre logique et à notre société. Atatürk ne nous a pas servi, mais dans le contexte de la Première Guerre mondiale, il a été choisi par les puissances étrangères.
Est-ce que ces dernières années, à un moment, vous avez peut-être douté du pouvoir actuel, et est-ce que cette décision sur Sainte-Sophie vous a conforté dans le soutien que vous apportez au président? Alors là, il lève le pouce en l'air, voilà.
Oui, le président a prouvé sa force, même si à un moment donné, il a agi d'une manière politique, car il était obligé, il était contrôlé par les forces étrangères lui aussi.
Et ce monsieur qui explique qu'il ne votait pas jusqu'à présent, et que maintenant il votera pour l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, le parti islamo-conservateur au pouvoir depuis 2002 en Turquie.
s'appelle Fatih.
Yaşınız?
25. Il a 25 ans.
Pour nous, les conservateurs, c'était une blessure que cet endroit n'appartienne pas aux musulmans depuis plus de 80 ans. Pendant longtemps, le gouvernement n'a pas eu le courage de faire de cet endroit une mosquée. Mais enfin, aujourd'hui, le pouvoir actuel a eu le courage. Et c'est grâce à Recep Tayyip Erdoğan, lui a eu le courage. Nous sommes de nouveau en situation de domination et nous sommes libres. Et notre président a voulu envoyer ce message au monde entier. Moi, je ne veux pas dire qu'Atatürk a fait une erreur dans le contexte d'après-guerre. Il fallait peut-être faire de Sainte-Sophie un musée. Chaque époque exige des décisions propres à elle. Mais c'est le résultat final qui compte. Aujourd'hui, c'est une mosquée.
Et dans cette foule, un Français, un Franco-Turc. Et vous avez la double nationalité, alors ?
Exactement. Mikhaïl, j'ai 36 ans. Et je suis venu là pour une semaine. Un peu pour ça aussi en même temps.
Spécialement pour Sainte-Sophie ?
Spécialement pour Sainte-Sophie. Pour pouvoir faire ma prière du vendredi.
Ça vous a fait quoi quand le président Erdoğan a pris sa décision ?
Ça m'a fait chaud au cœur. Grâce à notre président Tayyip Erdoğan, malgré que beaucoup de personnes le critiquent, c'est quelqu'un de très droit, de très honnête. Et il dit la vérité. Et je viens aussi ici pour lui rendre service, pour lui faire plaisir et me faire plaisir pour ma croyance que j'ai en tant que musulman.
Vous avez le droit de vote en Turquie ou pas ?
Bien sûr.
Et vous votez pour le AKP ?
Je vote aussi Erdoğan.
Voilà, exactement. Depuis toujours ?
Depuis toujours, depuis qu'il est là. Parce que moi, avant, quand je venais en Turquie avec mes parents, j'aimais pas venir. C'était catastrophique. Que pour moi, la politique qui a été après l'Empire ottoman, c'était des agents qui ont été installés par les Européens, vu la défaite de l'Empire ottoman avec tous les pays qu'ils étaient contre. Et maintenant, Erdoğan, il est arrivé, il essaye de mettre dans l'ordre les choses légalement, honnêtement. C'est Atatürk qui a trahi, justement, l'Empire ottoman.
Vous osez dire ça en Turquie ?
Ouais, j'ose dire ça, ouais.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ce choix de faire de Sainte-Sophie une mosquée ? Ça veut dire quoi ? Au-delà du symbole, sur le plan politique, peut-être ?
Sincèrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le traité de Sèvres, allez vous faire foutre.
Le traité de Sèvres, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est une blessure pour les Turcs.
Exactement, le traité de Sèvres, après le traité de Sèvres, il y a eu le traité de Lausanne, justement, rectifié par rapport aux décisions européennes mondiales.
La Turquie avait perdu beaucoup de territoire.
Exactement, on a perdu beaucoup de territoire.
Est-ce que je peux vous prendre en photo ?
Bien sûr, pas de problème.
Alors là, je viens de vous prendre en photo, vous avez levé la main.
C'est le signe de Erdoğan, pour le remercier.
Certains diront que c'est le signe des frères musulmans.
Non, pas des frères musulmans, rien à voir. C'est le signe de la capartie de la politique d'Erdoğan, tout simplement.
Le pouce replié dans la paume de la main et les quatre doigts en l'air.
C'est le renouveau quoi, de la Turquie, tout simplement.
Ey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri. İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar.
L'Université d'Istanbul, non loin de Sultanahmet. Pas si loin donc de Sainte-Sophie. Rendez-vous est pris avec Ilyas Topsakal, c'est le vice-recteur de l'Université d'Istanbul. C'est aussi un intellectuel très proche du MHP, le parti d'extrême droite nationaliste qui fait partie de la coalition au pouvoir et dont dépend d'ailleurs Recep Tayyip Erdoğan pour maintenir sa majorité. Et pour le MHP, faire de Sainte-Sophie une mosquée, c'est un cheval de bataille depuis très longtemps. Allons-y. Impressionnante l'université, du marbre un peu partout, drapeau turc évidemment. Et voici le vice-recteur donc. Alors on entre dans son bureau, un portrait du président Erdoğan, un portrait d'Atatürk. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la conversion de Sainte-Sophie était attendue par une partie de la communauté musulmane ici en Turquie.
Pour les Turcs, l'identité islamique de Sainte Sophie n'est pas d'une importance centrale. C'est une erreur que les intellectuels occidentaux font quand ils décryptent la situation. Pour les orthodoxes, Sainte Sophie est une église, mais pour nous, c'est une question de souveraineté nationale et d'affirmation de la prépondérance de l'État. Cette ouverture au culte musulman ne date pas d'hier. Depuis longtemps déjà, il y a des imams qui sont nommés à Sainte-Sophie. L'appel à la prière y était effectué. On pouvait prier dans certaines parties du bâtiment et les fidèles venaient y faire leurs 5 prières quotidiennes. C'était donc déjà une mosquée, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas été inaugurée en tant que telle aux yeux du monde entier. C'est une question de droit interne qui relève de la souveraineté nationale et personne n'a le droit de s'en mêler.
Est-ce que Hagia Sophia, qui devient une mosquée, c'est de nature à aussi apporter un peu de réconfort à une partie du peuple turc qui attendait cette décision et qui aujourd'hui doit traverser des difficultés économiques?
Je ne pense pas que cette vision de la question de Sainte-Sophie soit très objective. Pour reconvertir Sainte-Sophie, il fallait au contraire une Turquie forte. Parce qu'à travers le monde, tous les pays auxquels vous pouvez penser, de l'Amérique à l'Europe de l'Ouest, en passant par la Russie, qui est le pays avec lequel nous avons les meilleures relations de voisinage ces derniers temps, tous ces pays ne veulent pas que Sainte-Sophie devienne une mosquée. Un État qui aurait besoin d'aide et d'argent ne ferait pas ça. Il se contenterait du statu quo pour obtenir des financements à moindre coût. Le fait que Sainte-Sophie reste un musée n'était pas cohérent historiquement dans un contexte d'affirmation des puissances régionales où vous devez montrer votre force. La Turquie veut montrer sa puissance dans la région. Elle le fait en Syrie, en Irak, en Méditerranée orientale, parce que c'est notre zone de développement naturel, comme l'est l'Afrique pour la France. Tout le monde voit que la Turquie est devenue un acteur important, mais elle devait toujours composer avec ce fardeau, avec le fait que des puissances étrangères lui avaient dicté la conduite à tenir sur Sainte-Sophie. Ça n'est pas acceptable pour un État. Un pays dans le besoin ferait le dos rond et prendrait l'aide qu'on lui accorderait. Mais la Turquie n'a plus besoin de ça désormais.
Le message envoyé par le pouvoir est très clair, la Turquie n'a besoin de personne, la Turquie est forte. Et pourtant, selon l'Institut de statistique de la Turquie, l'inflation, elle est réelle. Un taux annuel qui frôle les 12%, le chômage à presque 13%, ce sont les chiffres officiels. Le chômage des jeunes est à près de 25% et surtout la monnaie est fragilisée. Début août, la livre turque atteignait son plus bas historique face à l'euro et au dollar. C'est le vendeur de glace ottomane qui est en train de touiller sa glace. Pas grand monde qui s'arrête. Arasta Bazar, c'est à quelques pas de Sainte-Sophie, cette rue touristique, évidemment, habituellement, mais la foule n'est pas là à cause de la pandémie de coronavirus. C'est désert. Les marchands ont ouvert leurs boutiques, mais ils attendent. Les passants qui ne sont pas là. Le regard un peu dans le vide pour certains. Bonjour.
Merhaba. Bonjour. Textile.
D'accord. Un vendeur de textile, donc, c'est bien ce qu'on avait vu.
My nickname, Tunjay.
Tunjay.
Bir.
41 ans.
No tourists, no business now.
Voilà, il a l'air un peu triste parce qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de commerce, il dit. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé avec Sainte-Sophie, sur cette décision du président? Est-ce que pour vous c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Qu'en pensez-vous?
Négatif.
Moi, je peux dire en général que c'est négatif. C'est négatif pour les commerçants de ce bazar en général, parce que nous sommes des gens qui se considèrent comme des Européens et qui ont de bonnes relations avec eux, qui veulent être comme eux. Mais moi, je pense que c'est politique. Et en disant politique, je veux dire que c'est en raison des conflits avec les pays européens.
Il y a une crise économique en ce moment en Turquie.
Nous croyons que même avant la période de pandémie, il y avait une crise économique en Turquie. Les politiques disaient qu'il n'y avait pas. Mais bien sûr, avec la pandémie, cette crise s'est renforcée.
Est-ce que la décision concernant Sainte-Sophie peut faire oublier aux Turcs la crise économique?
Oui, je ne pense pas que c'était une décision juste et je pense que ça ne va pas servir à quelque chose ou à faire oublier la crise économique. Et nous, nous croyons déjà qu'il y avait une crise économique et nous ne l'oublions pas. Mais avec la pandémie, il a commencé, et le président a commencé à perdre sa propre base électorale aussi. Et c'est pourquoi il a lancé une telle idée.
Ah, encore le muezzin qui lance les ânes, l'appel à la prière, nouvelle prière donc, 5 par jour. Pas de président cette fois. On va essayer d'entrer dans Sainte-Sophie avec un guide touristique,
Adil,
39 ans, ça fait 12 ans hein, qu'il est guide touristique à Istanbul.
Yeah, please.
Allez, on va à l'intérieur.
The separation of, let's say, genders from the entrance.
Ah oui, alors ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'il y a un chemin pour les dames et un chemin pour les messieurs, une séparation.
Oui, désormais c'est un lieu religieux. C'est la transformation d'un lieu de visite, d'un espace laïque, en un lieu de culte pour les fidèles. Et ils adaptent le bâtiment aux règles islamiques.
Les femmes doivent mettre le voile, pour celles qui ne le portent pas déjà.
L'homme devant nous a demandé à la sécurité où puis-je laver mes mains, mes bras, mes pieds, faire mes ablutions. Il n'y a pas de quoi faire ça ici pour le moment. Ils lui ont dit d'aller à la mosquée bleue en face. Plusieurs choses ne sont pas prêtes, même si c'est obligatoire de se laver avant la prière. Si vous demandez à Sainte-Sophie s'il y a un lieu pour ça, ils disent non. C'est juste une autre indication que cette décision était précipitée.
Et alors nous rentrons dans Sainte-Sophie. Ça y est.
Il y a cette mosaïque ici qui montre les empereurs Constantin et Justinien. Justinien à gauche, Constantin à droite, présentant leurs offrandes à la Vierge Marie et à Jésus-Christ.
Alors, une de ces mosaïques à fond d'or qui sont très connues, évidemment. Et là, il y a une sorte de grand rideau blanc qui a été tiré pour les masquer. Les gens qui retirent leurs chaussures. Nous sommes dans une mosquée.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tout au fond de la nef, encore des rideaux. Derrière ces rideaux, des mosaïques représentant la Vierge Marie et Jésus, rendus invisibles.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Allez, dans le taxi, en route pour Kasım Pasha, c'est le quartier où a grandi le président Erdogan, quartier conservateur évidemment. Quartier populaire qui se réveille là, il est un peu plus de 9h du matin, ça s'agite déjà beaucoup. Alors sur cette place, il y a des drapeaux turcs suspendus un peu partout. Allez, on va tenter le marchand de tapis, ils ne veulent pas parler. Alors là, c'est un coiffeur, barbier.
Moi, je ne peux pas donner une interview parce que j'ai un commerce ici, ça me pose des problèmes, vous comprenez.
C'est difficile d'entendre les partisans de Recep Tayyip Erdogan ici. On a eu d'ailleurs beaucoup de refus, hein. L'AKP nous a dit non.
Oui, l'AKP nous a dit non. Les associations, principales associations qui ont lutté depuis des dizaines d'années pour que Hagia Sophia redevienne une mosquée ont également pas voulu nous parler.
Alors c'est notre fixeur hein, qui est en train de s'exprimer.
La direction à présidence des affaires religieuses qui va maintenant administrer Sainte-Sophie n'a pas non plus donné suite. Une méfiance envers les micros de l'étranger et puis aussi le fait que maintenant en Turquie depuis quelques années il est devenu très difficile de s'exprimer sur des sujets sur lesquels le président de la République s'est déjà exprimé parce que les gens considèrent qu'ils n'ont pas de légitimité pour s'approprier les sujets qui ont déjà été traités par l'autorité suprême qui est le président de la République.
Smith à Arman.
Alors, elle s'appelle comment?
Arman. Arman, elle est 58 ans. Et Shukran, 78 ans.
Vendeuse de chaussures, tranquillement installée. Là, elles prennent le petit-déj. Et elles sont souriantes, on va tenter le coup. Est-ce que vous avez déjà voté pour le président Erdogan, pour l'AKP?
Elle dit, eh bien, nous au début, bien sûr qu'on a soutenu, c'est un enfant du quartier, il est né à Kassam Pacha, vous rendez compte. Et puis, la madame dit, c'était quelqu'un de très droit, c'était un monsieur, cet homme-là. Et puis, quand il a été maire d'Istanbul, il a fait des choses formidables pour la ville à cette époque-là. Bien sûr que oui, on l'a soutenu. Moi, maintenant il n'aura plus ma voix, je ne le soutiens plus. Mon analyse à moi, même si je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est que je pense qu'il est mal conseillé, il est mal entouré, et c'est pour ça qu'il fait des mauvaises choses.
Qu'est-ce qu'il fait de mauvais, selon vous? La décision sur Sainte-Sophie, c'est une mauvaise décision?
Madame dit, la principale raison pour laquelle je me suis détourné, lui, c'est l'économie, parce que la situation est vraiment épouvantable. Alors pour moi, ce n'est pas grave, je suis déjà âgé, ma vie s'est bien déroulée, et pour les jeunes, ça me fait de la peine. Et elle a l'air surenchérie en disant, oui, pour les jeunes, la situation, vous ne vous rendez pas compte, est vraiment catastrophique. Il n'y a pas de boulot. S'ils sont diplômés, ils sont au chômage. S'ils ne sont pas diplômés, ils sont au chômage. C'est très, très mauvais. Bon, après, il faut rendre à César ce qui est à César. Tout ce réseau routier de transport, etc., qu'il a mis en place, c'est extraordinaire. Moi, je suis passé dans ce tunnel qu'ils ont fait récemment sous le Bosphore pour aller à Kadikos sur la rive asiatique. J'ai eu peur un petit peu parce qu'on était quand même sous le Bosphore, mais ça s'est très bien passé. C'est formidable. Mais l'économie est très mauvaise. Et puis, il faudrait qu'ils s'inspirent un petit peu de l'Europe. En Europe, vous avez des dirigeants qui restent 4 ans, 5 ans, mais ça fait 22 ans qu'il est là, qui laisse un peu la place aux jeunes. Et puis qu'on voit si celui qui vient après lui est meilleur ou pire que lui. Elle dit oui, moi c'est vraiment quelqu'un que je considérais comme un monsieur. Et moi j'avais ma boutique est à côté de celle de sa famille. Il venait à la boutique, il venait prendre le thé. Enfin c'était presque un ami de la famille.
Vous qui l'avez un peu connu, vous avez envie de lui dire quoi?
Şimdi tabii ki bunları teknik şey olarak anlayamıyorum. Ne derece nedir?
Eh bien, moi je ne veux pas donner des conseils très précis parce que tous les sujets techniques, etc., je ne suis pas vraiment compétente, mais j'ai envie de lui dire qu'il se repose, qu'il aille prendre du bon temps, qu'il laisse quelqu'un d'autre prendre sa place, mais pas longtemps, pendant 4 ans, juste pour voir comment ça se passe, si c'est mieux. D'accord, il a fait beaucoup de choses pour nous, il a affermi notre prestige, par exemple, en Europe, je pense, mais là maintenant, ça suffit.
Alors voilà, une voix un peu dissonante, pas forcément ce à quoi on s'attendait dans ce quartier, puisque l'AKP, en 2019, aux dernières municipales, a fait près de 50% des voix ici, dans cet arrondissement. Alors c'est Huda Kaya qui nous attend. Elle est députée du HDP, le parti pro-kurde, parti d'opposition. Elle avait pris la parole dans l'hémicycle au moment où il y avait un débat sur la transformation de Sainte-Sophie en mosquée. Elle avait dit très clairement son opposition. Les derniers étages, on y est. Good morning. Alors là, on est dans le salon d'Huda Kaya, qui porte le voile, qui est musulmane, pratiquante. Vous êtes très pieuse. Faire de Sainte-Sophie une mosquée, vous, en tant que musulmane, ce n'est pas quelque chose que vous souhaitiez?
C'est du vol, c'est l'appropriation et la reconversion d'une œuvre et d'un lieu qui ne leur appartient pas. Mais c'est également une violation des sourates du Coran et des enseignements du prophète. C'est donc encore une fois moralement inacceptable et ça n'a aucun fondement religieux.
İnsan olarak da kabul edilemez. İnançlar ekseninde de bunun karşılığı yok.
Plus précisément, non seulement ça n'a aucun fondement, mais c'est même tout à fait contraire à la religion, puisqu'il y a des versets du Coran qui précisent que même en cas de guerre, il est interdit de s'en prendre aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux religieux, ainsi que de détériorer les arbres, l'eau et les lieux de culte. Au-delà de son appartenance culturelle, c'est un lieu qui est le patrimoine de l'humanité, mais le fait de changer sa vocation, d'en changer le nom, d'y pratiquer un autre culte, le fait d'en masquer les icônes, c'est un viol fait à la mémoire et à l'âme de ces lieux.
Oranın orijinal haline, hafızasına, oranın kendi ruhuna bir tecavüzdür.
Vous savez à quoi ça me fait penser ?
Empathie yaparsa.
Les gens doivent faire preuve d'empathie pour se comprendre les uns les autres. Il ne faut pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'autrui nous fasse.
Biz de başkasına yapmamalıyız. İşte Mescid-i Aksa işgal altında diyoruz.
Et si nous disons que la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem est occupée parce que quand les musulmans tentent d'y prier, ils sont gazés, arrêtés par les soldats de l'armée israélienne.
Nasıl oradaki Müslümanların ibadethanesi?
Si vous vous indignez des attaques dont sont victimes les musulmans quand on les empêche d'accéder à leur lieu de culte, alors vous devez respecter les valeurs et les lieux de culte des autres religions.
Saygı göstermek zorundasınız. İnançtan
ziyade, plus qu'une décision faite dans le prolongement de la religion, c'est un choix qui répond à des objectifs politiques et qui s'inscrit dans une idéologie impériale.
Türkiye'nin,
ils mènent depuis des années une politique qui, veulent-ils croire, va mener la Turquie à devenir le leader du monde musulman, une sorte de nouveau califat.
Zeminini yıllardır oluşturuyorlar zaten.
Un nouveau califat, donc, selon Huda Kaya, la Turquie qui deviendrait le centre de gravité du monde musulman avec Sainte-Sophie en étendard, symbole d'une islamisation du pays. Toutes ces questions sont posées, mais pour les opposants au pouvoir en place, en tout cas, pas de doute, une évidence même et un combat à mener déjà pour les femmes, pour défendre des droits acquis. Elles ont été des milliers à manifester régulièrement cet été pour dénoncer l'augmentation des féminicides. 474 selon les associations en 2019, des chiffres en constante augmentation depuis 10 ans. Leur crainte aussi, c'est la remise en cause de la convention d'Istanbul par plusieurs cadres de l'AKP. Cette convention, ratifiée en 2012 par la Turquie, un traité international du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Ce soir-là, à Istanbul, malgré les pressions, elles sont dans la rue. Nous sommes dans le quartier de Kadıköy. Et sur cette place, des centaines de femmes rassemblées sous étroite surveillance de la police, évidemment.
C'est pas une exception, c'est pas un accident, c'est la violence masculine.
Parmi les manifestantes, une dame kurde, vous vous appelez comment ?
Nesrin Koçit, 54 yaşında.
Elle s'appelle Nesrin Koçit, elle a 54 ans.
On m'a mariée de force quand j'étais enfant, j'avais 12 ou 13 ans. Et ça, c'est une grande violence d'être mariée à un homme que tu n'aimes pas, que tu ne connais même pas. À cet âge-là, on m'a mariée avec un inconnu dans l'est du pays, à la frontière avec l'Irak. Nous n'avons pas pu nous entendre dans les premières années de notre mariage. Et j'ai subi beaucoup de violences. Mon époux m'a battue. Et quand j'ai eu des enfants, j'étais coincée, je ne pouvais plus divorcer. Et j'étais isolée dans cette ville, à Kari, loin de mes proches. C'est pourquoi j'étais obligée de rester.
Est-ce que pour vous, il y a un mouvement de retour en arrière sur les libertés lié à l'islamisation politique de ce pays?
Évidemment, oui, le pays est de plus en plus islamisé parce qu'il y a un système intrusif qui intervient sur notre manière de nous habiller, sur notre vie de femme. Tout est lié, Sainte-Sophie, la lutte des femmes, l'islamisation, parce que l'État a vraiment très peur des femmes, parce que l'État sait ce qui va se passer si les femmes se révoltent.
Nous ne renonçons pas notre vie, nous ne voulons pas se suicider. Nous ne voulons pas rentrer à la maison.
Et toutes ces femmes qui portent un masque violet sur lequel il est écrit « Appliquer la convention d'Istanbul ». Sur chaque pancarte, le même slogan, mais à chaque fois, un autre nom, celui d'une autre femme qui a perdu la vie.
Exactement. Elle pourrait vivre encore aujourd'hui.
Toute l'opposition est là. Hein. Le HDP, bien sûr, est présent. Le parti pro-kurde, représenté par cette députée, Zuleyha Gülüm.
C'est pas seulement du conservatisme. C'est la mise en place d'un système plus autoritaire qui se manifeste. Et toutes les modifications des lois qu'ils ont faites jusqu'à aujourd'hui et la politique qu'ils appliquent vont vers un régime autoritaire qui institutionnalise le fascisme. Avec la mise en place de vigiles officiels dans les rues et la loi sur le contrôle des réseaux sociaux, il y a aussi la loi qui fragilise les avocats et les barreaux. C'est un système qui met en place le régime de l'homme unique et apprend au peuple à se taire et qui punit ceux qui le critiquent. Les femmes aussi en sont victimes. Tous les pouvoirs sont aux mains des hommes. Aucun pouvoir n'échappe aux hommes en Turquie comme dans le reste du monde, mais ici, particulièrement ces dernières années. Il y a une structure du pouvoir qui est basée sur l'idéologie turco-islamique, c'est-à-dire l'État unique, la religion unique et la race unique. Et dans ce contexte, le sunnisme devient la religion souveraine.
Elle a donné de la voix pendant toute la manifestation, c'est l'une des organisatrices. Vous êtes en colère ?
Oui. Hepimiz çok kızgınız.
Nous sommes tous en colère.
Pouvez-vous nous dire votre prénom, votre nom et
Feride Eray. Yani zaten Türkiye'de bir süredir aslında daha nasıl söyleyeyim yani
en Turquie, depuis quelque temps, il y a une politique de plus en plus conservatrice et qui puise sa force dans la religion. En Turquie, ça a toujours été le cas, ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, le pouvoir actuel perd de sa force. Et pour cela, certaines associations qui gravitent autour des communautés religieuses peuvent imposer leurs demandes et leurs exigences au gouvernement.
Bir takım tarikatlar etrafında bir araya gelen gruplar isteklerini ve taleplerini ciddi biçimde
ces groupes disent que défendre l'égalité des sexes, c'est devenir asexuel. Que remettre en cause la place des gens dans la société, c'est devenir asexuel.
Kadın erkek toplumsal cinsiyet rolleri gender roles yani bunların yerinden edilmesi cinsiyetsizleştirir bizi. Yani bizim öldürülmemizin kaynağı olan şey bu toplumsal cinsiyet rolleri.
La raison pour laquelle nous sommes assassinés par les hommes, c'est cette violence sociale. Et nous faisons face au pouvoir sur ce sujet essentiel. On nous attaque sur nos droits.
Geliyor olduğunun göstergesi ve bunun şu an bu kadar tehdit ve şantajlarına hem boyun eğiyor.
Le gouvernement ne sait pas comment se maintenir et c'est pour ça qu'il répond de plus en plus aux demandes de ces groupes religieux qui veulent que les lois soient modifiées, que le droit à l'héritage des femmes soit annulé, que le droit à la pension alimentaire disparaisse.
Tüm bunların iç yasaları da değiştirilsin.
Ils sont contre tout cela, et surtout concernant les droits économiques des femmes. Ils sont contre ces droits qui servent à renforcer les femmes au sein de leur mariage et en dehors du mariage, parce qu'une femme renforcée économiquement n'est plus dépendante des hommes.
Çünkü ekonomik olarak güçlenmiş bir kadın, adama bağımlı olmayan bir kadındır.
Alors il y a ces femmes, inquiètes mais combatives. Et puis il y a la minorité chrétienne grecque-orthodoxe, inquiète également, en colère parfois, mais silencieuse le plus souvent. Les Roums, c'est ainsi qu'ils sont appelés ici, une petite communauté en déclin, très soudée, très fermée, prudente. Leur situation est très fragile en Turquie. Pas facile de les approcher, pas facile de les faire parler. L'avènement du nationalisme turc au siècle dernier a laissé des traces. Vexation, discrimination, persécution parfois. Et maintenant, c'est Sainte-Sophie, l'ancienne basilique millénaire, l'un des symboles de leur foi, qui est converti en mosquée, une fois de plus, de quoi réveiller les peurs. Voici le quartier de Kurtuluş, un quartier qui abrite de nombreuses minorités religieuses, et notamment les Grecs orthodoxes, évidemment. On va rencontrer justement une figure de cette communauté grecque orthodoxe à Istanbul. Il s'appelle Mikhail Vassiliadis. Il publie un journal tiré à quelques centaines d'exemplaires, rédigé en grec et adressé aux Grecs orthodoxes. Bonjour.
Bonjour.
Vous parlez français ?
Comme un petit chinois.
Quel âge avez-vous ?
81.
81 ans. Alors voilà, Sainte-Sophie encadrée dans un tableau accroché, mais sans les minarets. Il n'y a pas les minarets. Sainte-Sophie, une mosquée, quand vous entendez ça, vous, grec orthodoxe, vous ressentez quoi ?
Şunu biliyorum. Bu olay gelişirken gazetelerde çıkan yazılar.
Ce que je sais, c'est que toute l'attention qui a été déployée sur ce sujet par les médias proches du gouvernement a créé une peur dans la communauté grecque orthodoxe. Les gens se demandent s'ils ne vont pas revivre les pogroms des 6 et 7 septembre.
1955.
Vous avez eu peur que les violences ciblent à nouveau votre communauté avec ce qui se passait autour de Sainte-Sophie et ce contexte général aujourd'hui en Turquie ?
Les Roums, surtout la grande majorité d'entre eux, qui ont plus de 60 ans, ont peur quand ils voient ce qu'il s'écrit dans la presse, sachant qu'ils sont déjà une espèce en voie de disparition. Imaginez-vous, dans un quartier habité par 5000 personnes et où vivent seulement deux Roms, comment voulez-vous qu'ils n'aient pas peur quand ils entendent en permanence leurs voisins crier, hurler, on va faire de Sainte-Sophie une mosquée. Tout cela crée une inquiétude, mais parfois de l'inquiétude à la peur, il n'y a qu'un pas.
Ça réveille le traumatisme des Grecs orthodoxes.
Quand vous avez eu un traumatisme et que quelqu'un vient mettre du sel sur la plaie, cela crée un sentiment d'insécurité.
Ladies and gentlemen, we kindly remind you that smoking is not allowed anywhere on the vessel during the voyage.
Et oui, le voyage qui commence, pas très long, hein. On s'éloigne un peu d'Istanbul aujourd'hui, on a pris le bateau. Et voici donc cette île Kinaliada, c'est son nom, l'une des îles des princes.
We are going to the monastery.
Okay. Un monastère qui se situe au sommet de cette île.
That's correct. Church, the churches.
D'accord. Alors l'église. C'est le 6 août, la bénédiction des raisins, le jour de la transfiguration du Christ. Chaque année, c'est un moment important pour les orthodoxes. Ils ne sont pas nombreux, une cinquantaine tout au plus. Et notre guide s'appelle Yorgo Stephanopoulos.
En français, il est Georges Stephanopoulos.
Il a 76 ans, c'est le représentant de la communauté grecque orthodoxe du quartier de Kadıköy à Istanbul. Un personnage très important dans cette communauté, très respecté.
Notre communauté qui représentait des centaines de milliers de personnes au début du 19e siècle ne compte même pas 2000 membres aujourd'hui en Turquie.
Quand il s'exprime, c'est toujours avec un langage très diplomatique.
Les représentants de ce gouvernement déclarent « Nous ramenons Sainte-Sophie à sa fonction d'origine. » Mais sa fonction d'origine n'est pas d'être une mosquée, c'était une église. Ils disent que c'est l'héritage des sultans ottomans. Ok, c'est l'héritage des sultans. Alors vous respectez l'héritage des sultans, mais pas l'héritage d'Atatürk ? C'est dommage, mais je ne peux pas être en colère. La seule chose que je peux me permettre, c'est d'être blessé. Comment pourrais-je réagir ? L'État turc a le droit de faire tout ce qu'il veut avec ce monument. Mais Atatürk avait pris la bonne décision en faisant de Sainte-Sophie un musée. Car nous ne sommes plus un État ottoman. Nous sommes la Turquie, qui est supposée être laïque, laïciste. Mon message au président serait, si possible, ce ne sera pas possible car il s'est engagé personnellement dans cette reconversion en mosquée, mais si c'est possible, de refaire de Sainte-Sophie un musée et de consacrer 2 jours par an pendant le Ramadan et la fête du sacrifice pour les prières des fidèles musulmans et réserver 2 périodes par an à Noël et à Pâques pour les chrétiens. Faire ce choix contribuerait à renforcer le prestige de l'État turc.
Christmas and Easter for Christians. That would bring a lot of credit for the Turkish state.
I want to share. Je veux partager Sainte-Sophie, mais qui entend ce message?
Nobody listens.
Personne n'écoute.
They don't want to talk about it.
Les gens de ma communauté ne veulent pas en parler. S'ils parlent, ça pourrait être interprété comme une critique du président de la République ou du libre-arbitre de la République turque pour faire usage d'un monument qui appartient à ce pays. C'est pour cela qu'ils ont peur de parler.
On nous dit hors micro, c'est une honte ce qui a été fait. Quelques rares personnes de cette assemblée acceptent de nous confier leurs sentiments.
Gabriela Joshko, 38 ans.
De jour en jour, une partie islamiste radicale émerge. Pour les chrétiens orthodoxes, bien sûr qu'il reste des églises dans ce pays. Mais Sainte-Sophie, pour nous, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. La ligne rouge, c'est-à-dire transformer Sainte-Sophie en mosquée ou une église, c'est prendre une décision politique et déclarer la guerre entre ces deux religions. Nous, la famille grecque, orthodoxe, nous sommes profondément tristes. Une tristesse que nous vivons de manière silencieuse. Nous ne l'exprimons pas avec colère, avec haine, nous restons calmes, mais il y a cette douleur intérieure.
Ve sakin bir şekilde üzüntümüzü içimizde yaşıyoruz. Ama çünkü bu üzüntü.
Parce que si nous exprimons cette tristesse publiquement, le camp opposé réagira et il n'attend que ça. Nous ne voulons pas de conflit parce que nous avons vécu sur ces terres, chrétiens et musulmans en fraternité.
Hristiyanlar ve Müslümanlar hep kardeşçe yaşadık.
Selon vous, est-ce que vous avez encore une place en Turquie ou est-ce que la nation turque tend vers l'islamisation?
Nous, les chrétiens, sommes tellement tristes. Et par rapport à votre question, la réponse, c'est oui. Des groupes islamistes commencent à se radicaliser et nous avons peur que la charia soit appliquée dans ce pays.
Sainte-Sophie, instrument de l'islamo-nationalisme, un reportage de Benjamin Elie avec François-Charles Domergue à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, l'historien Ethem Eldem, professeur à l'université de Bogazici à Istanbul et au Collège de France. Ethem Eldem, vous avez entendu cette femme qui redoute l'instauration de la charia en Turquie. Quand certains disent leur crainte d'un retour au califat, est-ce que c'est pertinent sur le plan historique? Est-ce que l'Empire ottoman est devenu le modèle de la Turquie contemporaine?
Oui et non. Oui, l'image de l'Empire, oui, elle est exploitée, et surexploitée d'ailleurs par le gouvernement en ce moment, mais de là à en conclure que l'Empire va ressusciter, non, absolument pas. Les empires, tous les empires d'ailleurs, sont bel et bien morts et enterrés, et par conséquent, il n'est pas question de voir une sorte de ressuscitation de l'Empire ottoman. Tout au plus, peut-on craindre une islamisation de la République de Turquie avec justement comme cheval de bataille le mythe de l'Empire ottoman comme empire turc et islamique. C'est un peu ce qui est exploité en ce moment par le gouvernement. Donc, si des changements s'opèrent, ce sera toujours dans le cadre d'une sorte de république, une république plus ou moins dure, plus ou moins autoritaire, et le tout est de voir jusqu'à quel point le gouvernement a vraiment l'intention de manipuler la politique et l'idéologie pour remplacer la laïcité kébaliste, par une forme d'islamo-nationalisme.
Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est la fin de la laïcité en Turquie, en précisant évidemment qu'on parle d'une laïcité toute relative avec une dominante de l'islam sunnite?
Oui, absolument, parce que ça, j'insiste sur le fait que la laïcité kémaliste, elle était essentiellement cosmétique. Il est facile de se dire laïque quand on dit en même temps que 99% de la population est musulmane. C'est une laïcité un peu gratuite. Et par conséquent, la laïcité kémaliste, elle était essentiellement vouée à balayer sous le tapis un peu ce qui était un peu gênant aux yeux de l'Occident, donc tout ce qui était un peu trop oriental, etc. Et puis, bien sûr, de museler l'islam politique et lui rendre l'accès de la scène politique impossible. Donc, cette laïcité-là, je crois qu'elle est en train de disparaître. Et cela fait déjà un moment. Je crois que ça a déjà commencé dans les années 80. Erdogan n'a rien inventé. Il avait des prédécesseurs, Özal, voire même le coup d'État de 1980, qui a quand même énormément contribué à rendre plus verte la Turquie, verte dans le sens de l'islam, afin de se prémunir contre le danger rouge. Donc c'était le vert contre le rouge dans les années 80, c'était la politique américaine qui voulait que l'islam serait une sorte de défense contre le communisme, contre le péril rouge. Donc c'est un peu là que ça a commencé, que la Turquie s'est islamisée un peu par la bande, mais là on en est arrivé à un moment où le gouvernement est en train de sciemment tenter de proposer l'islamo-nationalisme comme une alternative au laïco-nationalisme des kémalistes. Donc le nationalisme est toujours là, Dieu sait qu'il est loin de disparaître en Turquie, mais c'est la sauce qui change, on passe d'une laïcité pro-occidentale à une sorte de, ce n'est pas vraiment un islamisme, mais c'est un fort relent d'islam pour essayer de justifier, de se et de se démarquer surtout du kémalisme. Parce que ce qui est en jeu en ce moment, c'est essentiellement de régler les comptes avec la laïcité, avec le kémalisme.
Et alors justement, dans quelle mesure est-ce qu'Erdogan aujourd'hui gomme cette partie de l'histoire de la Turquie incarnée par Mustafa Kemal, le représentant de la communauté grecque orthodoxe, hein, disait « vous respectez l'héritage des sultans et pas l'héritage d'Atatürk ».
Oui, alors ça, les kémalistes vous le diront aussi, notamment le Parti républicain du peuple, le parti de l'opposition, qui lui ne jure que par Atatürk, vous dira que l'héritage, le patrimoine kémaliste est en train de s'effriter et que l'AKP, Erdogan, est en train de faire ça sciemment et que les grandes fêtes nationales qui avaient été créées par le kémalisme sont en train d'être ignorées et remplacées par des dates alternatives. Alors pour l'historien, de toute façon, c'est très inquiétant parce qu'on est entre deux versions de l'histoire. L'histoire avait déjà été sacrifiée par le kémalisme pour les besoins de la construction d'un État-nation laïque, ethniquement pur, etc. Maintenant, c'est le bord opposé, c'est la version opposée de ceci qui est en train de se bâtir. Et pour l'historien, ce qui est vraiment désolant, c'est que dans tout ça, l'histoire est toujours perdante. Le problème, c'est simplement que la Turquie a politiquement toujours manipulé et utilisé l'histoire comme ciment national et comme élément idéologique exploité par le système de l'éducation nationale, par les médias, etc. Donc, en gros, le principe est toujours le même. C'est la sauce qui a changé. Et ça, c'est vraiment désolant.
Et quand les opposants disent que Erdogan se réfère à ce passé flamboyant, c'est pour dissimuler la réalité moins glorieuse qu'est la crise économique, vous le confirmez ?
Ah ça sûrement, je crois que ça c'est l'évidence même, qu'il y a énormément de populisme, il y a une sorte d'échappisme, on essaye de cacher un peu la situation désastreuse de l'économie, on essaye de faire oublier la pandémie, etc. Donc il y a toutes sortes de raisons et on s'attend toujours à des élections anticipées. Donc tout ça bien sûr c'est de l'électoralisme, c'est de l'opportunisme politique, c'est du populisme. Mais là aussi, rien de nouveau sous le soleil, c'est l'essence même de la politique en Turquie que l'on voit être répétée avec des modifications qui sont essentiellement idéologiques pour se mettre au goût du pouvoir.
Mais ce discours fait mouche, hein. On a le sentiment vraiment d'une revanche sur l'histoire. Mikhail, le franco-turc qu'on entend au début du reportage, fait référence au traité de Sèvres de 1920. Les événements qui ont suivi la Première Guerre mondiale ne sont toujours pas digérés par les Turcs.
Oui, c'est-à-dire que le nationalisme, vous savez, se nourrit de gloire et de fierté, mais aussi de victimisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas de nationalisme sans paranoïa. Et par conséquent, le nationalisme turc, depuis les années 20, se nourrit de ce mythe qui parfois n'est pas un mythe. D'ailleurs, on le sait bien, les paranoïaques ont parfois des ennemis, n'est-ce pas ? Et que par conséquent, on essaye de faire mousser autant que possible cette vision de l'ennemi. Alors l'ennemi, selon les besoins de la politique, peut être extérieur, il peut être intérieur. Pour les kémalistes, c'était l'islam, c'était le fanatisme islamique, c'était aussi l'impérialisme occidental, même si l'objectif premier était quand même de se faire reconnaître comme une nation civilisée par cet Occident qui nous avait fait tant de mal pendant la Première Guerre mondiale, pendant le 19e siècle, etc. Donc le nationalisme turc, c'est toujours nourri, et la politique en général, de victimisation. Et ça prouve en quelque sorte que la politique a généralement très peu à dire sur l'avenir, elle ne peut se reporter que sur le passé et sur les crimes passés des autres. Bien sûr, le nationalisme, on a toujours raison, la nation a toujours raison, les autres ont toujours tort, donc il suffit simplement de déterminer qui sont les autres et quels sont les torts qu'il faut leur attribuer. Encore une fois, ce n'est pas que tout le monde soit innocent, c'est vrai que l'Empire ottoman a été victime d'une exploitation économique, impérialiste, presque coloniale, etc. C'est l'évidence même, mais réduire le passé à ce genre de niaiserie, c'est vraiment extrêmement frustrant, puisqu'on ne va pas de l'avant. Mais pour confirmer ce que vous dites, effectivement, le nationalisme et l'islam Car encore une fois, la laïcité kémaliste étant extrêmement superficielle, extrêmement cosmétique, elle n'a jamais vraiment convaincu le Turc moyen de ce qu'il fallait s'émanciper complètement de l'emprise de l'islam. Le Turc moyen, dans les années 50, dans les années 60, comme aujourd'hui, se dit Turc et musulman, et considère par conséquent que quiconque n'est pas musulman n'est pas vraiment turc, et que même si la Constitution dit que les non-musulmans font partie de la nation, etc., oui, jusqu'à un certain point, mais en fait, au fond, on sait, on veut reconnaître que la véritable identité turque, elle est essentiellement turque, d'abord turque, mais elle est aussi, et elle doit être islamique. Et par conséquent, le rêve, il n'y a vraiment que le kémalisme et les purs et durs du kémalisme aujourd'hui qui oseront vraiment brandir le drapeau de la laïcité pour défendre le statut de musée de Sainte-Sophie. Et encore une fois, s'ils le font, c'est pas vraiment par désir de partager le patrimoine avec le monde entier, etc. C'est parce que le kémalisme le dit et que par conséquent, on veut, on tombe en quelque sorte dans cette polarité, cette polarisation qui est très prenante en Turquie en ce moment, entre l'AKP, porte-parole de l'islamo-nationalisme, et le CHP, porte-parole d'un nationalisme kémaliste.
Avec la reconversion de Sainte-Sophie, est-ce qu'il y a vraiment volonté d'effacer les traces des civilisations grecques et chrétiennes ? Les Grecs ont-ils raison d'y voir une provocation à leur encontre, ou est-ce que le message il est purement interne ?
Alors, le message est essentiellement interne. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est essentiellement pour le public turc, c'est pour s'assurer la fidélité d'un certain électorat et pour s'assurer des voix aux prochaines élections. Donc, le discours international, le pied de nez à l'Europe ou à la Grèce, c'est vraiment secondaire. Mais effectivement, ça marche aussi, et d'autant plus que la Grèce tombe tout de suite dans le panneau, puisque la Grèce est un peu l'image inverse de la Turquie. C'est-à-dire que pour la Grèce, Sainte-Sophie n'a jamais été un musée, vraiment. C'est encore une église. Donc le nationalisme grec étant ce qu'il est, il est évident que l'opinion publique grecque va voir dans cela un affront dirigé envers la Grèce en particulier. Alors que le problème, il est beaucoup plus, à mon avis, vaste, c'est le choix entre vouloir ou ne pas vouloir partager des valeurs universelles, partager ou ne pas partager un patrimoine avec le reste du monde. Le message de l'AKP aujourd'hui en convertissant Sainte-Sophie, c'est d'abord une indifférence à ce que le monde extérieur ressent, puisque l'objectif premier, c'est l'opinion publique turque, et deuxièmement, c'est le cas échéant, le plaisir de pouvoir défier une Europe que l'on juge trop arrogante, qui ne nous a jamais admis en son sein, etc. Donc il y a énormément de frustrations qui viennent nourrir en quelque sorte cette sensation de puissance, cette ivresse en quelque sorte du pied de nez turc envers le monde entier.
À propos des valeurs, Benjamin Ely a donné la parole aux femmes qui se battent pour leurs droits. Les femmes turques avaient obtenu le droit de vote en 1930 et l'AKP a un temps soutenu les droits des femmes. C'est une époque révolue ?
Apparemment pas. Le phénomène très intéressant pour ce qui est de la question des femmes, c'est qu'il y a une sorte de division, de scission qui est en train de s'instaurer au sein de l'AKP, avec bien des femmes qui défendent ce qu'on appelle le traité d'Istanbul et qui par conséquent s'opposent à un discours essentiellement mâle de soumission de la femme, etc. Donc, et ça, je pense que c'est une vérité qu'il ne faut absolument pas oublier. Si la démocratie doit s'instaurer en Turquie, si les droits, un état de droit doit s'instaurer en Turquie, ce sera forcément grâce à la participation de certains éléments qui, jusqu'ici, ont été laissés pour compte, et notamment les femmes. Les femmes, parce que elles étaient très engagées dans le mouvement de l'AKP au début des années 2000, lorsqu'elles étaient vraiment soumises à une sorte de traitement de seconde zone par l'intelligentsia kémaliste, mais maintenant, elles se ravisent en quelque sorte en se rendant compte que pour ce qui est de leur droit, de leur sécurité, leur droit à la vie même, le changement de régime ou le changement de gouvernement n'a rien amené de véritablement nouveau. Et par conséquent, il y a un féminisme islamiste ou un féminisme à teinte islamisante qui est en train de rejoindre un féminisme plus général. Et le problème, c'est donc d'essayer de marier un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire le féminisme kémaliste qui est extrêmement élitiste et qui revendique un féminisme du haut vers le bas, et puis un féminisme islamiste qui voit quand même l'intérêt d'essayer de réinstaurer un pacte autour de l'identité et des droits de la femme.
Merci Etem Eldem. Les cours sur l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident que vous avez donné au Collège de France sont toujours proposés à l'écoute sur le site de France Culture et vous allez continuer. A priori, vos prochains cours, c'est en janvier-février. Sainte-Sophie, instrument de l'islamo-nationalisme, le grand reportage de cette semaine était signé Benjamin Ely. Réalisation François-Charles Domergue avec Swad Boukorsa à la technique. Et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.